Les Américains sont allés se coucher samedi soir en pleurant les morts, les 20 morts d'El Paso au Texas. Un tueur là-bas qui est entré dans un magasin Walmart et qui a ouvert le feu, tuant une vingtaine de personnes. Et comme si c'était pas suffisamment horrible comme ça, ben ils se sont réveillés hier matin en découvrant qu'il y avait eu une autre tuerie quelques heures plus tard à Dayton, en Ohio, cette fois, qui a fait 9 victimes. On va faire le bilan de ce qui s'est passé au cours de la fin de semaine avec Benoît Clerc, qui est correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Bonjour, M. Clerc.
Bonjour, Louis Lacroix. Bonjour à tous.
Alors, commençons, Benoît, avec ce qui s'est passé, les derniers détails sur l'attentat d'El Paso, le plus meurtrier des deux. 20 morts, 3 Mexicains, une vingtaine de blessés, 26 au total. Quelle est la dernière information sur les motifs qui ont amené cette tuerie-là?
Alors écoutez, des agents du FBI, ils travaillent toujours d'arrache-pied sur les deux affaires. Ils ont d'abord aidé au Texas, à El Paso, vous le disiez, devant ce magasin Walmart. Les corps des victimes ont été rendus aux familles après être passés par l'office des médecins légistes hier après-midi. Et les enquêteurs sont aidés par les agents du bureau des armes à feu pour déterminer d'abord d'où venait l'arme qui a tué ces 20 personnes, vous le rappeliez, et comment elle a pu être acquise par le meurtrier. On remonte les traces de la vente, quel a été le vendeur, qui a donné permission du port d'armes ou pas. Donc les enquêteurs sont en train de travailler là-dessus. Sur l'affaire même en tant que telle, sur les victimes d'abord du Walmart, ils sont âgés de 2 à 86 ans. Donc c'est déjà extrêmement nombreux, 20 morts vous le disiez, malheureusement des blessés qui sont gravement atteints, une dizaine dont le pronostic vital est toujours engagé ce matin. Ouais. Sur les deux attaques, la plus jeune victime est âgée de 2 ans, je vous le disais, et l'échelle des âges va jusqu'à 86 ans pour une personne tuée dans ce centre commercial de Walmart. Et à propos, Louis, ce matin, les 47 000 élèves des 49 écoles du district d'El Paso sont en train d'arriver dans leur classe ce matin, tous vêtus de blanc en signe de recueillement avec les victimes de l'attaque de samedi matin.
Mais qu'est-ce qu'on sait de Patrick Crusius, l'homme qui est à l'origine de cette terrible tragédie?
Alors, on sait d'abord qu'il a fait presque 2000 kilomètres pour venir de la ville d'Allen dans le Texas, qui est à l'est de El Paso. El Paso, il s'agit clairement, pour ce garçon de 21 ans, d'un suprémaciste blanc, porteur de thèses extrémistes de droite. Mm-hmm. Il coopère d'ailleurs avec les autorités, il leur parle un peu trop peut-être, ou beaucoup en tout cas d'après les enquêteurs. Il détaille ses informations, il explique ses raisonnements contre les Mexicains qui arrivent au Mexique. Et il faut le souligner qu'il a fait donc ses presque 2000 kilomètres pour venir à El Paso, qui est un symbole. C'est une ville multiculturelle, bien sûr dominée par le Mexique tout proche, au taux de criminalité qui est l'un des plus faibles des États-Unis.
Ben oui.
Et il est venu pour commettre son forfait, pour mieux marquer ce qu'il appelle son Amérique à lui. Il a été formellement accusé cette nuit de meurtre. Il est détenu dans un pénitencier de la ville, sans possible caution jusqu'à son procès. Et le procureur du Texas a indiqué hier qu'il demanderait la peine de mort, bien sûr, contre lui.
Mais il a laissé un manifeste derrière lui dans lequel il explique ses motivations, n'est-ce pas?
Alors tout à fait, ce manifeste de 4 pages, eh bien, il y développe justement ses thèses extrémistes. Il fait référence aux attentats de Christchurch, vous vous souvenez, en Nouvelle-Zélande au mois de mars dernier, qui avait fait 51 morts. Et il développe vraiment ses thèses d'extrême droite, notamment contre les Mexicains arrivant aux USA. Et donc ça ne fait pas de doute pour les enquêteurs, c'est véritablement la signature d'un suprémaciste blanc. Et c'est ça qui est en train de gangréner l'Amérique d'ailleurs, malgré ce que peut dire Donald Trump.
Oui, et ce qui est assez étonnant, c'est que lui, il s'est rendu aux autorités. Parce que souvent, on voit dans des tueries comme ça que le tueur veut se faire liquider par les policiers ou encore il s'enlève la vie lui-même. Mais dans ce cas-ci, c'est pas ça. Il s'est rendu, n'est-ce pas?
Oui, absolument. Mais il a 21 ans. Il faut imaginer que peut-être il s'est aperçu à un moment qu'il était allé beaucoup trop loin dès la première mort, dès la première victime abattue sur le parking de ce Walmart. Ce garçon a perdu la raison, manifestement. Alors, dans les premiers moments de l'enquête, on nous a dit qu'il était un malade mental. C'est possible, d'ailleurs. Ça sera aux experts judiciaires de déterminer son état mental au moment où il a commencé à tirer. Mais très clairement, il avait écrit d'ailleurs dans le manifeste que ce serait probablement le jour où il mourrait. Et puis, il s'est rendu devant les forces de l'ordre décembre, sans opposer d'ailleurs aucune résistance, ce que les enquêteurs ne s'expliquent pas encore ce matin, effectivement.
Bon, on en sait moins, par contre, sur les motivations du deuxième tueur, si on veut, celui de Dayton en Ohio, un bonhomme qui s'appelle Connor Betts, il a 24 ans, il a fait 9 décès, incluant lui-même, finalement, 10 si on inclut lui-même, là. Ça s'est passé dans la nuit. Est-ce qu'on parle des mêmes thèses là, de suprémaciste blanc, crime haineux dans son cas?
Alors, pour l'instant, non. Louis, pour l'instant, non. Pour cette tuerie de Dayton dans l'Ohio, le suspect n'a fait que tirer sans aucun discernement. Il a tué, vous le savez, sa propre sœur, la petite amie de celle-ci, juste quelques secondes avant que la police ne l'abatte. Alors, bien sûr, la police est en train de remonter des pistes maintenant. Il semblerait, d'après les premiers éléments de l'enquête qu'on a eu très tôt ce matin, que ça serait effectivement un autre cas de racisme extrêmement développé, extrêmement exprimé de cette triste façon. Mais on n'a pas de certitude encore, comme on en a de manière très claire, puisque au Texas, le tueur s'est rendu à la police et donc a parlé. Là, le suspect a été abattu par une patrouille de police qui passait vraiment devant ce bar et qui a évité probablement une tragédie plus grande encore, puisqu'il n'a tiré que, si je ne puis dire, pendant une minute, tuant ces 9 personnes. Ouais. Mais manifestement, on est dans le même registre de thèse d'extrême droite, absolument.
Ouais. Merci beaucoup, Benoît Clerc, d'avoir été avec nous.
Merci à vous, Louis.
Au revoir, Benoît Clerc, et correspondant pour Europe 1 aux États-Unis. On va maintenant s'entretenir avec Francis Langlois. Il est spécialiste de la question des armes à feu aux États-Unis à la chaire Raoul Dandurand. Bonjour, Monsieur Langlois.
Bonjour, Monsieur Lacroix.
Alors, dans les deux cas, évidemment, on parle d'armes automatiques. Là, on parle, dans le premier cas, la tuerie d'El Paso d'une AK-47. Dans le deuxième cas, bon, on n'a pas le type d'arme. Ça ressemble à une AR-15, d'après ce qu'on a vu, je pense, sur les photos. Mais c'est manifestement aussi une arme automatique, n'est-ce pas?
En fait, ce sont des armes semi-automatiques. Là. Je vais juste rectifier. Donc, ça tire à chaque fois qu'on appuie sur la gâchette. Ouais. Les armes automatiques sont interdites aux États-Unis, quoi qu'il y en a en circulation. Mais une chose est sûre, les deux sont arrivés très équipés. Le second, même avec un gilet pare-balles dans lequel ils avaient inséré plusieurs chargeurs à haute capacité. Donc, ce que ça veut dire, des chargeurs d'au moins 30 balles, parfois 50. J'ai pas vu de photo, là, mais ça me donne une idée là, de sa préparation.
Bon. Est-ce que, parce que là, on a vu ressurgir au cours des dernières heures une espèce de hashtag ou de slogan, enough is enough, là, parce que c'est les tueries se répètent aux États-Unis. À chaque fois, c'est des armes d'assaut, parce que même si c'est des armes semi-automatiques, ça demeure des armes d'assaut.
Absolument.
Alors, le problème demeure entier. Est-ce que c'est un problème d'armes à feu ou de radicalisation de la population?
Les deux, en fait, pas de la population, mais...
D'une certaine frange de la population, oui.
Mais vous avez raison. Puis, donc, effectivement, le problème, c'est que, vous voyez, les gens d'extrême droite qui sont responsables de plus de morts et d'attentats aux États-Unis que le terrorisme islamiste, ont changé de modus operandi. C'est-à-dire que dans les années 60, 70, 80, hein, on utilisait des explosifs. Maintenant que les armes à feu qui sont sur le marché sont beaucoup plus efficaces, donc c'est plus des carabines de chasse, hein, ce sont des fusils d'assaut, comme vous le disiez, des pistolets, des revolvers, des choses comme ça, ben on se met à utiliser des armes. Donc la disponibilité, l'accessibilité des armes permet à des individus qui sont souvent auto-radicalisés, dans le cas présent, en tout cas c'est une tendance qu'on voit qui est très lourde depuis les années 2000. Donc bref, c'est la disponibilité de ces armes-là leur permet de faire des carnages comme ceux-là. Cependant, depuis au moins la tragédie de Parkland en Floride, il y a un momentum assez fort qui a permis l'élection de plusieurs élus démocrates pro-réglementation, qui a permis au niveau local de passer de la réglementation à gauche à droite dans les municipalités, dans les États et tout et tout. Évidemment, il y a d'autres États où est-ce qu'on fait l'inverse. Le Texas est un exemple, la Floride en est un autre. Mais une chose est certaine, il y a un momentum pro-réglementation parce que le mouvement s'est organisé comme la NRA l'a fait dans les années 70. Et donc, depuis Sandy Hook en 2012, donc on a réorganisé au niveau local et aussi au niveau pan-national et on a accepté que Washington, pour l'instant, est complètement bloqué par différentes considérations, mais essentiellement l'influence de la National Rifle Association.
Ben oui.
Donc, on y va au niveau local. Est-ce que ça va prendre du temps? Évidemment que ça va prendre du temps. Est-ce que ça va être facile? Absolument pas. Mais une chose est sûre aussi, la National Rifle Association va extrêmement mal en ce moment. Elle a des problèmes judiciaires, des problèmes financiers et elle a un problème, une crise à l'interne. Donc, plusieurs de ses hauts dirigeants sont questionnés sur comment ils ont utilisé l'argent de l'organisation. Là. Donc, il y a des choses qui sont en train de bouger en ce moment même à ce niveau-là aux États-Unis.
Bon, moi, la question que je me pose tout le temps quand on commence à parler de limitation ou de contrôle des armes à feu aux États-Unis, il y a quoi? Il y a 400 millions d'armes à feu en circulation, je pense, aux États-Unis. Il me semble que c'est à peu près ça le chiffre. Vous êtes probablement plus au courant que moi.
300-400 millions.
300-400 millions.
Dans ces coins-là.
Est-ce que quand tu dis à un moment donné... Bon, OK, on va réglementer l'utilisation des armes à feu, ou etc. Puis tu as déjà entre 300 et 400 millions d'armes à feu qui sont en circulation. Est-ce que c'est pas trop peu, trop tard?
Ben, c'est évident qu'un peu comme l'alcool au volant, on peut pas garantir 100 % de sécurité. Hein. On a beau passer des lois de contrôle, il y a toujours des contrevenants. Puis bon, il y a des gens qui ont passé à travers les mailles du filet. Ceci étant dit, ce qu'on voit... aux États-Unis, puis on peut le faire ailleurs dans d'autres pays, mais ce qu'on voit aux États-Unis entre, par exemple, des États comme l'État de New York, par exemple, ouais. La Californie, où est-ce qu'il y a un contrôle plus serré, si on les compare à des États comme le Missouri, la Floride ou encore le Texas ou pire, le Mississippi, ben, les taux d'homicide par arme à feu sont plus bas, les accidents sont plus bas, les suicides sont plus bas, parce qu'on contrôle mieux.
Ouais.
Parce que il faut le dire, l'accessibilité est... La facilité avec laquelle on peut utiliser une arme à feu, c'est-à-dire que si on dit aux gens, vous êtes obligé de l'avoir dans un, je sais pas, verrouillé, déchargé dans un contenant qui lui aussi sera verrouillé, ben, quelqu'un qui voudrait suicider, par exemple, c'est beaucoup plus difficile de passer à l'acte. C'est pas impossible. Ça, on s'entend, c'est pas impossible, mais c'est plus difficile. Donc, ça prend plus d'étapes pour se rendre au bout. Et ce qu'on voit, c'est que ça fait une différence. On voit même entre des États, je vais vous donner un exemple très précis, entre des États comme le Nevada qui sont assez mal, plutôt laxistes sur le contrôle, et des États comme la Californie,
ouais.
Sur les comtés qui sont adjacents, on voit une différence entre les comtés entre les comtés californiens où est-ce que tu contrôles et les comtés au Nevada où est-ce qu'il y en a moins.
Ah oui,
en termes de
ah oui, on est capable de voir une différence statistique en tout cas dans les données.
Oui. Ouais. Oui, effectivement, ouais. Évidemment, d'une maison à l'autre, là, c'est une chose, là, mais d'un point de vue statistique, effectivement, là, donc il y a des micro-études qui font des comparaisons comme celle-là, là,
okay.
Qui ont été faites récemment.
Il y a des pays où on a réglementé fortement sur le contrôle des armes à feu. Je pense à l'Australie, entre autres, hein, où il y avait eu Port Arthur là, dans les années 90.
En 96,
oui. Qui avait été vraiment une tuerie épouvantable. Et par la suite, on a réglementé de façon très sévère et ça a eu un effet direct sur le nombre de tueries ou d'attentats là-bas, n'est-ce pas?
Effectivement, il n'y en a pas eu. En fait, il y en a eu une récemment, là, mais sinon, il n'y a plus de tueries de ce type-là. En Australie, la même chose en Angleterre. On a resserré la même année le contrôle des armes à feu après une tuerie similaire. En fait, il y en a eu deux. Bref, tout ça pour dire que ça a fonctionné. Donc oui, ça peut se faire. Puis prenez un exemple extrême là, au Japon, où est-ce que c'est extrêmement difficile d'avoir une arme à feu et c'est extrêmement difficile d'avoir des munitions. Donc,
ouais.
Pratiquement impossible. Et le crime organisé n'aime pas avoir des problèmes, donc ils n'utilisent pas des armes à feu ou presque jamais. Et il n'y en a pas d'homicide d'armes à feu là-bas, ou presque, là, peut-être 0,01 par année. Là. Mais c'est donc, si on contrôle énormément, bien évidemment, il risque d'avoir moins d'homicides. Ceci étant dit, les États-Unis, c'est autre chose. Là. On est dans un marché qui est complètement différent.
Oui, puis en plus, ils ont les lois qui sont incluses dans le droit de posséder une arme à feu qui est inclus dans la Constitution. Évidemment, ça vient complètement changer la donne et donner des munitions, pour utiliser une mauvaise expression, à ceux qui sont
absolument.
En faveur du contrôle, en fait, de la possession des armes à feu. Mais là, on voit l'émergence. De plus en plus, on parle de problèmes liés au nationalisme blanc, parce que il y a eu beaucoup de tueries où c'était des gens un peu dérangés qui décidaient de... Mais là, on est vraiment dans un phénomène social, j'ai l'impression, émergent, là, avec ces tueries qui sont liées au racisme.
En fait, c'est un phénomène qu'on a mis de côté après le 11 septembre 2001. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les années 90, il y a eu une série d'attentats, dont un particulièrement spectaculaire en 95 à Oklahoma City. Et là, le gouvernement fédéral et les autorités locales avaient vraiment frappé fort sur les milices d'extrême droite, sur les groupes d'extrême droite. On avait arrêté beaucoup de gens, etc. Et donc, ça s'était calmé. Mais avec le 11 septembre 2001, ce qui est arrivé, c'est que les effectifs et les ressources qui étaient mises de l'avant pour combattre le terrorisme domestique d'extrême droite et celui d'extrême gauche en passant, mais qui était moins dangereux à l'époque, donc ont été détournés vers le terrorisme islamique. Et on a mis de côté tout ça. En 2008, l'élection de Barack Obama a été un électrochoc pour tous les gens qui sont à la frange droite du spectre politique. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'ils se sont réorganisés. En 2009, il y a eu un rapport très important qui est sorti du Department of Homeland Security qui annonçait ce qui est en train d'arriver en ce moment. Là. Il y a une réorganisation de l'extrême droite, un recrutement de militaires dans les milices, bon blabla. Le gouvernement fédéral, sous la pression des Républicains, a mis fin à l'existence de l'unité spéciale du Department of Homeland Security qui s'occupait de la menace d'extrême droite. Et là, on récolte les fruits de la négligence, de 10 ans pratiquement de négligence de cette menace-là. Effectivement.
Merci, M. Langlois, d'avoir été avec nous.
Ça a été un plaisir, M. Lacroix. Passez une excellente journée.
À vous de même. Francis Langlois est spécialiste des questions des armes à feu aux États-Unis à la chaire Raoul Dandurand.